Merci à Paul pour cette introduction qui nous met, je crois, dans les dispositions pour écouter ensemble et apprendre de la parole. Je projette devant vos yeux deux versets. Vers cette même époque, Jésus dit « Je te loue, ô Père, Seigneur du ciel et de la terre, parce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents et que tu les as révélées à ceux qui sont tout petits. » Oui, Père, car dans ta bonté, tu l'as voulu ainsi. Ensuite, les deux versets de Paul aux Corinthiens, première lettre, qui font écho à ce texte. Nous exposons la sagesse de Dieu, secrète et cachée, que Dieu avait préparée avant le commencement du monde, en vue de notre gloire. Cette sagesse-là, les grands de ce monde ne la connaissent pas, car s'ils l'avaient connue, ils n'auraient pas crucifier le Seigneur glorieux. Mais comme le dit l'Écriture, il s'agit de ce que l'œil n'a pas vu, que l'oreille n'a pas entendu, ce que l'esprit humain n'a jamais soupçonné, mais que Dieu tient en réserve pour ceux qu'il aime. Je vais m'apesantir aujourd'hui un peu plus sur, si la technique me vient en aide, voilà. Je pense que j'avais tout simplement pas ouvert le... Je vais un peu m'apesantir sur ce verset. Je vais juste vous dire que ce verset compte pour moi de façon un peu particulière, hein, parce que c'est le verset que nous avions mis sur une affiche quand j'étais étudiant à Toulouse. Une affiche où nous invitions à des concerts des étudiants. C'était dans les cités U, c'était dans les restos U, etc. J'ai encore en tête ce noir et blanc de l'affiche, et il y avait ce verset dessus qui nous parlait particulièrement à cette époque-là, et nous collions nos affiches à Toulouse dans le cadre de l'organisation de ces concerts. Et vous savez qui c'est qu'il y avait à ces concerts? Il y avait le trio Rofidal, ça doit vous dire quelque chose, et il y avait Pâturage, dont nous chantons quelquefois des chansons, des chants. Voilà ce que me rappelle ce verset de façon tout à fait particulière. On l'avait choisi d'un commun accord parce qu'il nous semblait être tout à fait intriguant, suffisamment intriguant pour attirer l'attention des étudiants et les faire venir au concert. Et ces mots, malgré leur position dans l'évangile de Matthieu, assez tôt au chapitre 10, chapitre 11 chez Luc, puisqu'on a les deux récits, ces mots, il est très difficile de savoir quand Jésus les a prononcés exactement. Alors, il y a une hésitation sur la temporalité, mais les exégètes s'accordent à dire quand même que, selon les différentes approches chronologiques, ça serait entre la deuxième et troisième année du ministère de Jésus. Mais ce que je veux relever surtout, c'est que ces mots, ils sont prononcés dans un contexte très particulier. Et ce contexte, on le trouve dans Matthieu, les versets qui précèdent. C'est le contexte où Jésus fait reproche à cette région où il a pris l'habitude de vivre, Capernaum et les villages autour, il fait un reproche. Et voilà ce qu'il dit. Alors Jésus se mit à faire des reproches aux villes dans lesquelles avaient eu lieu la plupart de ses miracles parce qu'elles n'avaient pas changé d'attitude. Je cite « Malheur à toi, Chorazin, malheur à toi, Bethsaïda, car si les miracles accomplis au milieu de vous l'avaient été dans Tyr, et dans Sidon, il y a longtemps que leurs habitants se seraient repentis, habillés d'un sac et assis dans la cendre. C'est pourquoi je vous le dis, au jour du jugement, Tyr et Sidon seront traités moins sévèrement que vous. Et toi, Capernaum, seras-tu élevé jusqu'au ciel? Non, tu seras abaissé jusqu'au séjour des morts. Car si les miracles accomplis au milieu de toi l'avaient été dans Sodome, elles subsisteraient encore aujourd'hui. C'est pourquoi je vous le dis, le jour du jugement, le pays de Sodome sera traité moins sévèrement que toi. » Voilà le contexte dans lequel Jésus prononce ces mots. Contexte de reproche. Malgré les multiples signes qui viennent à l'appui de ce que Jésus enseigne sur le royaume de Dieu, et l'on sait qu'à ce moment-là, les miracles sont légion, ils constituent ces signes, il n'y a pas de mouvement des habitants de ces régions vers Dieu. Les miracles ne suffisent pas à renverser l'incrédulité. Mais le plus ennuyeux dans cette affaire, c'est qu'il n'amène même pas à penser, à s'interroger sur le contenu de ce que Jésus enseigne. Jésus reste, et d'ailleurs peut-être pour nos contemporains aussi en partie, il reste un guérisseur, un magicien. Ce qu'il dit n'est pas entendu. Et c'est dans ce contexte que Jésus prend à témoin toute l'assistance et prononce ces paroles. Et je vais, je vais un peu m'attarder sur ces paroles. Je vais naviguer dans ce texte ce matin, rapidement, je vous rassure, et une fois n'est pas coutume, commencer par la fin. Et la fin, c'est « Oui, Père, car dans ta bonté, tu l'as voulu ainsi ». Ces mots s'inscrivent dans le cadre de la louange. Le verset commence par « Je te loue, ô Père » et se termine par « Oui, Père, car ta bonté, dans ta bonté, tu l'as voulu ainsi ». Et cela pointe le fait que Dieu a un vrai projet, il a un vrai dessein, EIN. Dieu révèle et Dieu cache, Dieu voile et Dieu dévoile, parce qu'il a décidé de le faire. Tu l'as voulu. Dieu ne réagit pas à une situation, à un appel au secours de l'humanité. Il ne répond pas à ce désir latent de l'arrivée en Israël d'un sauveur qui va libérer du joug romain toute la population. Il intervient à ce moment-là de sa propre volonté dans l'histoire. Et c'est ce que dit Jésus. Tu l'as voulu ainsi. Il choisit le moment. Et Jésus rappelle ici quelque chose de fondamental, c'est que notre Dieu est souverain et que personne ne lui prescrit sa volonté. Mais, c'est pour moi aussi important dans ce verset, Jésus rappelle aussi que ce qui constitue la toile de décision d'intervenir de la part de Dieu, c'est sa bonté. C'est sa bonté. Ce que Dieu veut, nous dit Jésus, est en quelque sorte, je vais le dire comme ça, ce que Dieu décide et ce que Dieu entreprend, est enveloppé dans sa bonté. Je pourrais même presque dire empaqueté dans sa bonté, pour pousser l'image. C'est vraiment ça, cette bonté qui est à l'origine de la volonté de Dieu de se révéler. Il ne faut jamais que nous l'oublions, cela. Que ce soit pour chacun de nous une certitude absolument essentielle, parce que quand Dieu fait mouvement vers nous, c'est parce qu'il a décidé de nous faire du bien. C'est pour nous élever à lui, c'est pour nous attirer à lui, c'est pour nous faire entrer dans sa bonté. Ensuite, c'est vrai qu'on peut se poser des questions sur les choses cachées ou révélées. Que sont ces choses cachées ou révélées? Ce sont en fait, tout simplement, les nouvelles réalités que Jésus est en train de dessiner là, en Galilée, à travers ses enseignements et ses actes. Il décrit peu à peu les contours d'un nouveau royaume, un nouveau territoire, une nouvelle façon de vivre, qu'il nomme le royaume de Dieu. Et nous savons que cette expression va courir tout au long du Nouveau Testament. Jésus décrit en fait auprès des foules une réalité infiniment plus riche que celle qu'ils perçoivent et qui tout d'un coup déborde ces réalités connues. La vision partagée par le plus grand nombre des contemporains de Jésus autour de lui, c'est assez clair. Dieu est le Créateur, il a libéré un peuple qu'il s'est choisi, il a établi des lois pour ce peuple et il est juge des manquements à ces lois. Voilà ce que le consensus, l'inconscient collectif promène autour de ce qu'est Dieu. Mais ce Dieu fait partie de plus en plus, et c'est pour ça que Jésus intervient, des meubles. Il est figé dans une espèce de mémoire des hauts faits à l'égard du peuple d'Israël, mais une mémoire qui est de plus en plus inerte. Et Jésus répondra d'ailleurs à quelqu'un qui le lui demande, mais finalement, dans cet océan de prescriptions et de commandements, quel est le plus grand commandement? Et Jésus renvoie, retour aux fondamentaux, à des versets que vous connaissez bien, tu aimeras ton Dieu, Deutéronome, ton cœur, ta pensée, ta force, tu aimeras ton prochain comme toi-même, Lévitique. C'est-à-dire que Jésus se paye le luxe d'éterrer les deux choses les plus importantes qui ont été enfouies sous tout le reste. Et à travers le sens très paradoxal de ces paraboles et de ces actes, souvent, à travers ces déclarations qui ont dû être jugées quand même sacrément incongrues, Jésus révèle surtout que Dieu n'est pas ce que nos esprits imaginent. Il est autre, avec un grand A. Il dépasse ce qu'on a pris l'habitude de penser. À ses disciples, il a même fait toucher du doigt cette réalité, puisqu'il les envoie. On ne sait pas trop si cet épisode se situe, ce texte se situe après l'envoi des 70 disciples ou après l'envoi des 12, mais en tout cas, c'est au retour, en tout cas, de ses disciples. Il les envoie toucher cette réalité du royaume à travers la guérison des malades, l'affrontement des démons, la purification des lépreux. Et ils reviennent, en tout cas c'est ce qu'il nous est dit pour les 70, complètement excités de cette nouvelle possibilité de guérir, de purifier. Un peu ivres, sans doute, de leur pouvoir nouveau. Mais ce que fait Jésus surtout, au-delà de faire toucher la puissance, il redonne un sens aux écrits des prophètes. Il redonne une perspective qui était cachée. Je dirai des secrets cachés depuis la création du monde. C'est ce que Jésus dit là. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour nous aujourd'hui ? Peut-être que nous avons réalisé que nous risquons toujours de réduire Dieu à nos dimensions et qu'il dépasse incontestablement le cadre des murs de cette Église. Il dépasse incontestablement le cadre des murs de Notre-Dame, mais avec la flèche qui va bientôt être remise sur son toit. Mais il dépasse aussi le cadre de nos méga-churches qu'on rencontre aux États-Unis à 5 000 ou 6 000 personnes. Et Dieu dépasse infiniment ces méga-churches. Il serait à l'étroit dans ces méga-churches. Et nous l'oublions trop souvent. Nous faisons partie d'un royaume en tant que croyants dont nous ne soupçonnons maintenant, là, ici et maintenant, ni l'étendue, ni la profondeur, ni la richesse. Quand on commence les études supérieures, et c'était le cas des couleurs d'affiches que nous étions à Toulouse, en 76, ne calculez pas, ça me fera mal, on nourrit de grandes ambitions. On se dit, on va prendre un domaine d'études, on va le pousser à fond, et on va mieux connaître le monde et mieux le comprendre, et peut-être même pouvoir agir sur lui. Et le savoir et la connaissance, c'est quand on est plein de cet enthousiasme, quand on démarre ses études, quelles qu'elles soient d'ailleurs, artistiques, philosophiques, littéraires, scientifiques, techniques, mettez ce que vous voulez derrière, c'est que le savoir est censé nous rendre libres. La connaissance est censée nous libérer. Et pourtant, je suis sûr que ça vous a déjà effleuré l'esprit à de maintes reprises. Comment se fait-il que depuis que le temps que nos sociétés accumulent les connaissances, depuis le temps que nous découvrons, expérimentons, appliquons nos découvertes, nous avons répondu à certains problèmes, c'est vrai, mais pas à toutes les questions que nous nous posons individuellement sur le sens de notre présence ici. Alors, je ne m'engage pas pour autant sur un chemin que je sais très dangereux, qui consisterait à dévaloriser la connaissance et les savoirs. Car d'une façon claire, ça serait finalement reprocher à Dieu de nous avoir dotés de raison, la capacité de réfléchir, et ça serait manifester une belle ingratitude envers notre Créateur. Et cette tendance, elle a pu exister dans l'Église. Je me souviens, quand j'étais jeune, on n'était pas véritablement forcément, dans mon Église en tout cas, engagé à faire des études, encouragé à faire des études. C'était, pour certains, la génération précédente, un peu du temps perdu. Et on substituait à cette façon de voir les choses, on substituait un sentimentalisme, quelque part, religieux, qui n'encourageait pas du tout la réflexion du chrétien. Ça a existé. Je pense qu'on est sorti de ça. Dieu nous demande, au contraire, d'exercer nos capacités, nos compétences, de discernement, d'être attentif à ce que nous en faisons. Alors, à ce sujet, je veux vous montrer l'attitude de Jésus lui-même. Vous voyez, dans ce texte qui est projeté ici, vous avez peut-être eu le temps de le parcourir. Mais on voit qu'il retourne en Galilée, la réputation est en train d'enfler, de grandir, il enseigne dans les synagogues et il se rend à Nazareth et il demande à faire une lecture biblique et on lui présente le rouleau du prophète Ésaïe. Voilà ce qu'il lit. « L'Esprit du Seigneur est sur moi car il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour annoncer aux captifs la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vue, pour apporter la liberté aux opprimés et proclamer une année de faveur accordée par le Seigneur. » Il roula le livre, le rendit au servant et s'assit dans la synagogue. Imaginez la scène, tous les yeux étaient braqués sur lui. Aujourd'hui même, commença-t-il, pour vous qui l'entendez, cette prophétie de l'Écriture est devenue réalité. Que fait Jésus ? Jésus fait appel à leur intelligence. Jésus fait appel à leur culture profonde. Il les amène à faire le lien entre ce que Ésaïe annonce et ce qui est en train d'arriver sous leurs yeux. Il les renvoie à leur propre savoir. Il s'adresse bien à leur culture, à leur connaissance. Réfléchissez, vous qui savez tant de choses, sortez de vos couloirs et regardez ce qui est en train de se passer. Bien sûr qu'il faut nous servir de notre intelligence. Et je vous cite comme exemple aussi que j'ai trouvé intéressant, l'église de Bérée. Paul et Silas, arrivant à Bérée, y trouvèrent des gens qui étaient bien mieux disposés que les Juifs de Thessalonique et qui accueillirent la parole de Dieu avec beaucoup d'empressement. Ceux-ci examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était juste. Beaucoup d'entre eux crurent, et parmi les Grecs, un grand nombre de femmes de la haute société, et beaucoup d'hommes acceptèrent également la foi. Nous avons quand même là des gens qui vérifient si ce que Paul leur enseigne a un fondement solide. Ils se servent de leur capacité de réflexion, ils se servent de leur volonté de savoir, de connaître, pour asseoir leur propre foi. Ils creusent l'Écriture, et vous savez que c'est le titre de nos études de groupe de quartier, creuser l'Écriture, cette année. Ils creusent l'Écriture, et nous sommes appelés aussi à le faire. Alors inversement, il y a ceux qui sont trop sûrs de leur intelligence, et je sais pas, on dit maintenant, ils ont trop la confiance, quoi. Certains membres de l'église de Corinthe, qui se sentent arrivés au top de la sagesse et de la connaissance, ils font une telle confiance à ce qu'ils savent, à leur intelligence, et ils cultivent tellement la connaissance, ils sont enflés d'orgueil et ne voient même pas à quel point ils sont creux. Je les décris assez facilement comme les capitalistes de la connaissance. On accumule, on accumule, on accumule. Et Paul va consacrer les quatre premiers chapitres de 1 Corinthiens à leur dire à quel point ils se trompent sur leur propre situation. Et c'est à eux qu'il pense quand il dit un peu plus loin dans cette épître, si j'avais des prophéties, si je connaissais tous les secrets, si je possédais toute la connaissance, si j'avais même dans toute sa plénitude la foi jusqu'à transporter des montagnes, sans l'amour, je ne serai rien. C'est à eux qu'ils pensent dans 1 Corinthiens 13. Ils pensent à beaucoup de monde dans 1 Corinthiens 13. Hein. Mais ils pensent notamment à ceux qu'il décrit dans les quatre premiers chapitres comme étant des capitalistes de la connaissance. Donc, pas de mépris de la sagesse, pas de mépris de la connaissance, mais pas d'adoration non plus de la sagesse et de la connaissance pour elles-mêmes. Et c'est le piège dans lequel est tombée cette église de Corinthe. Et comme un piège va toujours avec les autres, ils ont constitué petit à petit dans cette église une caste, ceux qui savent, ceux qui ont tout compris, ceux qui voient les choses mieux que les autres, ceux qui ont tout, qui possèdent beaucoup, et c'est un peu les mêmes personnes. Et Paul leur dit, le texte que nous avons lu en introduction tout à l'heure, nous exposons la sagesse de Dieu secrète et cachée, que Dieu avait préparée avant le commencement du monde en vue de notre gloire. Cette sagesse-là, les grands de ce monde ne la connaissent pas, car s'ils l'avaient connue, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur glorieux. Mais comme le dit l'Écriture, il s'agit de ce que l'œil n'a pas vu, que l'oreille n'a pas entendu, ce que l'esprit humain n'a jamais soupçonné, mais que Dieu tient en réserve pour ceux qui l'aiment. Et il cite partiellement l'Ancien Testament. Cette prétention, on l'a vu aussi, c'était celle des pharisiens, un peu plus en amont. Et voyons comment Jésus réagit alors, à leur égard. « Je suis venu dans ce monde pour qu'un jugement ait lieu, pour que ceux qui voient ne voient pas, non, ceux qui ne voient pas voient, et que ceux qui voient deviennent aveugles. » Des pharisiens qui se trouvaient près de lui entendirent ces paroles et lui demandèrent « Serions-nous par hasard, nous aussi, des aveugles ?»« Si vous étiez de vrais aveugles, leur dit Jésus, vous ne seriez pas coupables. Mais voilà, vous prétendez que vous voyez. Aussi, votre culpabilité reste entière. À bon entendeur, salut. » Si Jésus n'est pas tendre vis-à-vis des pharisiens, Paul ne l'est pas, on l'a vu, vis-à-vis des Corinthiens. Et il ira jusqu'à leur rappeler ses prophéties d'Ésaïe et Jérémie. « Je détruirai la sagesse des sages et je réduirai à néant l'intelligence des intelligents. » À bon entendeur, salut. Alors là, pour nous, en 2023, pas de contresens. Dieu ne détruira pas la sagesse ni l'intelligence, il détruira la sagesse de ceux qui se pensent sages. Il détruira les intelligents, l'intelligence de ceux qui se pensent intelligents. C'est très différent. Et nous sommes, nous, appelés à nous servir des capacités que Dieu nous donne à cet égard. Il faut se réjouir de l'intelligence et de la sagesse chez nos frères et sœurs et de leurs connaissances. Il faut s'en réjouir. Nous sommes appelés à servir avec ces capacités et à louer pour ces capacités. Nous sommes appelés à être des chercheurs qui comprennent toujours mieux le dessein de Dieu et son projet, pour en comprendre toujours mieux le caractère admirable, comme les membres de l'église de Béry le faisaient. Mais c'est Dieu qui révèle, et lui seul. Ces choses-là sont en effet révélées aux tout-petits. Selon les traductions, ces choses sont révélées aux enfants ou aux tout-petits. Ça dépend des traductions. Vous trouvez aussi bien l'un que l'autre, petit, tout petit, enfant, petits-enfants. Mais finalement, ce qui est dans ce texte signifié, c'est que, en opposition à ceux qui ont eu le temps d'accumuler de la sagesse et de l'intelligence, eh bien oui, ces paroles de Jésus s'adressent aussi à tous ceux qui en sont encore au début de leur parcours. Enfants, comme on dit quelquefois, jeunes dans la foi. Enfant dans la foi. Selon les traductions, donc, on trouve tous les termes. Mais certains exégètes, effectivement, suggèrent qu'il s'agit là ici des débutants et peut-être même aussi des disciples qui viennent d'être envoyés en mission et qui sont encore jeunes dans la foi. Plein d'enthousiasme par rapport à ce qu'ils ont vécu et compris, mais encore jeunes et encore débutants. Ce qui compte le plus, finalement, c'est le fait que c'est la révélation. Qu'ils soient enfants, tout petits, petits-enfants, peu importe, c'est, ou débutants dans la foi, c'est la révélation qui est le nœud du texte. J'ai trouvé une note dans la Bible de Neuchâtel qui dit « Les enfants, ce sont les petits et les simples, tels que les premiers disciples de Jésus en Galilée, qui, étrangers à la sagesse et la science des écoles, sentant leur ignorance et leurs besoins, recevez avidement la lumière d'en haut. Tels doivent revenir devant Dieu, les savants eux-mêmes, pour entrer à l'école de Jésus-Christ. » Je ne sais pas si vous vous rappelez, dans les années 70, puisque je vous ai ramené en arrière, je vais encore remonter un peu plus, il n'y a pas de raison, on entendait les Jesus People chanter à l'époque « Redeviens bébé ». Ça vous dit quelque chose, ça? Oh, que c'est vieux! « Redeviens un bébé. » Vous ne connaissez pas ça ?« Redeviens un bébé. » Non ? Oh là, je suis vraiment très vieux. Mais c'était les Jesus People, c'était des gars qui avaient une dégaine de hippies, hein, et qui d'ailleurs venaient dans les groupes de jeunes, je me rappelle à l'époque, et qui nous apprenaient ce chant « Redeviens un bébé ». Voilà. Bon, mais c'est quand même pour nous une vraie bonne question ce matin. Sommes-nous devenus à nos propres yeux sages et intelligents? C'est une question que chacun peut se poser au point d'être persuadé de ne plus rien avoir à recevoir. Dieu nous rappelle, et Jésus le souligne, il faut se reconnaître pauvre pour recevoir. Nos expériences, nos connaissances, notre prétendue sagesse nous amènent-elles à ressembler à ces Corinthiens, sans besoin supplémentaire, parvenus au but, alors que Dieu se révèle à ceux qui sont petits et qui se savent tout petits, à ceux qui se savent incomplets, dans le besoin. Puissions-nous être toujours dans cet état d'enfance, dans cette simplicité de cœur, pour pouvoir accueillir les révélations de notre Père. Je me dirige vers ma conclusion bientôt. Une citation, j'ai trouvé, l'auteur est pour moi un peu mystérieux, mais bon. À l'orgueil de l'intelligence, il est répondu par l'aveuglement, ce que Jésus disait aux pharisiens, à la simplicité du cœur qui veut la vérité par la révélation. Oui, nous avons en 2023 l'habitude d'appeler notre Dieu notre Père. Et d'ailleurs, ce n'est pas une mauvaise habitude, puisque c'est précisément Jésus lui-même qui nous y a incités en nous apprenant cette première prière, notre Père. Cette dimension, elle ne nous est pas arrivée parce que nous l'avons voulu, nous l'avons décidé nous-mêmes, cette relation avec Dieu. C'est bien Jésus qui introduit cette vision du Père dans notre histoire, et en plus d'un Père attentif et aimant. Jésus, en tant qu'homme, il est né dans une société où on était le fils d'un tel, lui-même fils d'un tel, lui-même fils d'un tel, et on remontait comme ça jusqu'aux ombres tutélaires, Abraham, Isaac et Jacob. Et la légitimité, à l'époque, se construisait sur cette appartenance à cette filiation. Mais voilà que Jésus révèle, par ses paraboles et son enseignement, qu'on peut passer d'un simple statut de descendant dans une filiation à un statut d'enfant. Et ce n'est pas la même chose. Alors, il donne lui-même l'image de cette relation de père à enfant par sa proximité avec Dieu. Et le passage que nous méditons aujourd'hui en témoigne encore. Les auteurs des évangiles de Matthieu et de Luc font suivre le passage que nous méditons aujourd'hui exactement du même verset. Mon Père a remis toutes choses entre mes mains. Personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père, et personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Personne n'a cette intimité. Jésus décrit ici ce qu'on pourrait appeler une forme, une imbrication. Nous savons, nous, maintenant, aujourd'hui, que c'est la réalité trinitaire. Mais au moment où Jésus parle, cette réalité est encore voilée. Il y a une véritable imbrication, et connaître en grec se dit eidos, qui ne veut pas du tout dire avoir l'information, avoir la connaissance, savoir que, mais c'est connaître avec le cœur, connaître avec l'esprit. Personne ne connaît le Père de cette façon-là, si ce n'est le Fils. Et il dit autre chose. Il dit en même temps que cette imbrication du Père et du Fils va plus loin, parce qu'elle rend le Fils capable de révéler lui-même. À tout cela, et c'est ce que nous dit Jean dans son prologue, ceux qui ont accueilli Jésus et cru en lui, il a accordé le privilège de devenir enfant de Dieu. Ce n'est pas par une naissance naturelle, ni sous l'impulsion d'un désir ou encore par la volonté d'un homme qu'ils le sont devenus, mais c'est de Dieu qu'ils sont nés parce que Dieu l'a voulu. Et pour nous aujourd'hui, c'est parce que nous adhérons et nous accueillons ce qu'est Jésus que nous pouvons avoir la révélation du royaume de Dieu. Beaucoup plus complète que ce qu'avaient les contemporains de Jésus encore. Finalement, nous qui avons cru, nous n'avons pas fait autre chose que croire et accepter que Jésus nous montrait le Père, en définitive. « Celui qui m'a vu a vu le Père », disait Jésus à ses interlocuteurs. Nous l'avons cru, nous, ici, qui sommes là ce matin. Et en conséquence, alors nous avons été adoptés. Et la conséquence directe de tout ça, c'est que nous savons que nous avons été adoptés. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. C'est ce que Paul écrit aux Romains. Ce matin, ceux qui sont ici, et j'espère la majorité, je le souhaite vivement et peut-être même la totalité, ceux qui sont ici ce matin se sentent avant tout, non pas descendants, mais enfants de Dieu, adoptés. Je t'ai adopté. Comme le dit Paul aux Romains, vous avez reçu cet esprit d'adoption, c'est parce que vous avez été adopté que vous êtes capable de dire Père. Si vous avez de la difficulté à dire Père, il y a peut-être un cheminement à faire. Mais dès le moment où vous êtes capable de dire à Dieu Père, c'est que vous savez que vous êtes enfant de Dieu, intimement, plus profond de vous. Alors ça n'a rien à voir avec les filiations respectives, hein, avec les appartenances à des grandes familles, à des grandes lignées. Il y en a qui se revendiquaient de ça. Hein, quand Jésus a eu à ferrailler avec, à un moment donné, certains docteurs de la loi, il dit, mais nous, on est fils d'Abraham, nous. Voilà ce qu'ils lui ont dit. Et Jésus répond, mais attendez, moi, les pierres qui sont là, j'en fais des fils d'Abraham si je veux. Ça n'est rien. Ça ne représente rien. Il n'y a pas de rente de situation. Il n'y a pas de filiation qui, hop, vous canonise d'un coup d'un seul. Et Paul le dira très clairement aux gens de l'église d'Éphèse. Il parle à la fois à des juifs et à des non-juifs et il leur dit, nous avons les uns et les autres, juifs ou non-juifs, nous avons accès auprès du Père par le même esprit. Voilà, ce que Jésus est venu nous révéler, c'est que Dieu peut nous être proche à la mesure d'un Père. Mais, j'oublie pas que dans la même invocation, Jésus dit une chose aussi importante que Père. Il dit en même temps quoi, vous vous en souvenez ? Seigneur du ciel et de la terre. Le Fils de Dieu vit au milieu de ses disciples comme un homme, mais il s'adresse devant eux à celui qui est d'une nature tout autre, tout autre. Mettez un majuscule à tout, mettez un majuscule à autre. Et là, j'ai tendance à penser qu'il est en train de faire œuvre de pédagogie auprès de ses disciples. Ils reviennent de mission, je l'ai dit tout à l'heure, ils sont encore pleins de tout ce qu'ils viennent de vivre. Il m'a dit, attendez, vous n'êtes pas des dieux. Mettons bien les choses à leur place. Ils sont grisés. On le serait, nous aussi, je pense. Et Jésus loue en même temps non seulement le Père, mais aussi le Seigneur du ciel et de la terre, celui qui reste souverain sur sa création. Il n'y a pas de méprise. Ce n'est pas parce que j'ai une relation d'enfant à père et de père à enfant que le Seigneur du ciel et de la terre a disparu. Je pense que nous avons quelquefois des familiarités qui nous font oublier qui est véritablement Dieu. Et je suis persuadé qu'en cet instant, Jésus se fait le médiateur d'une relation équilibrée avec notre Dieu. Et j'ai lu quelque part ce commentaire, en portant Dieu à notre Dieu l'honneur qui lui est dû, nous ne perdons rien de cette douceur. Ce n'est pas antinomique. Au contraire, cela nous fait apprécier d'autant plus l'honneur immense qui nous est fait d'être admis dans l'intimité du Dieu Très-Haut, Seigneur du ciel et de la terre. Alors j'ai été long, je conclue. Finalement, que nous dit ce verset ? C'est que Dieu se rend accessible à qui sait reconnaître qu'il a besoin de lui. Ne retenons peut-être ce matin qu'une phrase, mais retenons celle-là. C'est que Dieu sera accessible à qui sait reconnaître qu'il a besoin de lui. Il sera accessible d'abord car c'est sa nature même, c'est dans l'ordre de sa bonté, on l'a vu ensemble tout à l'heure. Dans ta bonté, tu l'as voulu ainsi. Oui. Il sera accessible à qui ? Ben, à ceux qui veulent le chercher, le connaître, découvrir, approfondir sa volonté. Parce qu'ils ont accueilli Jésus comme étant sa parfaite image, Dieu sera accessible à ceux qui cherchent. Il sera accessible à ceux qui reconnaissent qu'ils ne se suffisent pas à eux-mêmes, aux petits, aux enfants, à ceux qui savent qu'ils ont tout à commencer, et pour nous ce matin, qui sommes peut-être déjà anciens dans la foi, à tout à recommencer, peut-être pas tout, mais être capable de dire « j'ai des choses à apprendre ». Il fait grâce aux humbles et résiste aux orgueilleux, dit le texte de la Bible. Il sera accessible à la fois comme Père et comme Seigneur souverain, comme Seigneur souverain et comme Père, et il n'y a pas d'incompatibilité entre les deux, il n'y a pas d'antinomie. Et qu'est-ce que ça apporte ? Mais ça apporte que s'étant rendu accessible dans ces conditions-là, il peut à ce moment-là nous dévoiler les réalités de son royaume. Nous sommes capables d'entendre, nous sommes capables de percevoir les choses qui révèlent sa grandeur. Nous devenons capables de recevoir cela, et puis nous sommes capables aussi de juger de notre juste place dans cette création. Amen.